Je vous mets au défi de trouver les mots père, mère, frère ou sœur dans un livre d'André Roy. Vous ne risquez pas de tomber pendant votre recherche sur cousin et cousine, germain ou pas, oncle et tante, petite ou grande. C'est une chose qui me frappe dans son œuvre, la famille y est à peu près absente. Pourtant, ce sujet est omniprésent dans la littérature québécoise, y compris chez les auteurs LGBTQ+, dont certaines en ont fait une de leurs grandes thématiques, voire le schéma organisateur de leur production. Michel Tremblay, Michel-Marc Bouchard, Marie-Claire Blais ont certes investi l'univers familial pour le détricoter et en donner un portrait éloigné de l'idéalisme conservateur, mais la centralité que conserve la famille dans leurs œuvres nous permet, je pense, de mesurer l'originalité du travail d'André Roy dans le contexte québécois. Depuis les années 2000, la critique littéraire remarque d'ailleurs la résurgence dans la littérature des thématiques filiales et des formes qui lui sont reliées, comme la saga familiale ou le roman des origines. Et ça, tant en France qu'au Québec. Michael a mentionné les travaux de Dominique Viard, mais il y a aussi ici ceux de Martine Emmanuel Lapointe, qui ont étudié les questions de la transmission et des héritages, des questions qui sont forcément ambivalentes. Martine-Emmanuel Lapointe et Laurent Demance, par exemple, remarquent, je cite, « la profusion des figures d'héritiers dans la littérature contemporaine, héritiers toutefois problématiques, qui témoignent de la nécessité de repenser les liens familiaux et les transmissions. » En cherchant à résumer les dynamiques qu'il et elle retracent dans plusieurs œuvres, il et elles écrivent que le sujet contemporain s'éprouverait dans une rencontre singulière avec ses ascendants et ses spectres, tout en élaborant des généalogies artistiques et intellectuelles. Filiation biologique et affinité élective se confondraient alors dans une même recherche de modèles et de références, à rebours cependant des canons et des hiérarchies instituées. Fin de la citation. Qu'en est-il pour la littérature LGBTQ peu présente dans ces analyses? Si les critiques insistent sur le fait que les legs et les filiations sont rompus, détournés, subvertis, cette fois-là c'est Martine-Emmanuel Lapointe et Karine Sellard, je me demande, en gardant en tête le caractère anecdotique du familial dans l'œuvre d'André Roy, si la filiation biologique, qui sous-tend tous les concepts d'héritage, de transmission, de legs, est utile pour comprendre son travail. Il me semble, par ailleurs, que les héritages gays et ou queer, pour peu qu'on puisse les généraliser, bon, probablement qu'on ne peut pas les généraliser, mais je le fais quand même pour les besoins de la cause, puis pour le lunch, sont marqués par des ruptures encore plus grandes que celles étudiées par les auteurs que j'ai mentionnés. La famille et la question des origines n'ont en effet pas le même sens dans la littérature queer, plusieurs œuvres s'appliquant à montrer la violence et les aveuglements du modèle familial en rejetant presque intégralement ce schéma d'organisation des relations humaines. L'origine, chez André Roy, paraît toujours manquante, partielle, à réinventer. Il écrit dans La vie parallèle « J'écris parce que je ne sais pas d'où je viens ». Dans « J'ai toujours appris à écrire », il trouve une réponse à ce mystère en substituant le langage lui-même à l'origine familiale ou sociale. Je cite « Si écrire est savoir ce que l'on ne saura pas, c'est pourtant savoir d'où l'on vient, de ce ratage inaugural dont la langue et le chaos sont les bavardages logiques et déréglés, sans bord et sans clôture, sous la loi. » L'écriture révèle chez lui l'illusion, le semblant quant à une collectivité, à une appartenance, à une race. Écrire, note-t-il encore, c'est affirmer l'identité provisoire et précaire, dissoudre la chronologie et la filiation, dénouer les liens sociaux. Les filiations semblent souvent, de la même manière dans la littérature queer comme chez André, moins déterminantes, les figures d'autorité étant souvent rejetantes et ou rejetées. On se trouve d'ailleurs par la littérature, pour citer encore « J'ai toujours appris à écrire », d'autres parents, d'autres tuteurs, d'autres amis. Un écrivain dit ressembler à un orphelin qui parle, peut-on lire encore dans « Professeur de poésie ». Les fractures temporelles dans la culture queer me paraissent elles aussi encore plus profondes que celles qu'observent les travaux sur la filiation, les rapports entre les générations étant souvent inexistantes et l'histoire des populations LGBTQ+, comme tu l'as dit Michael aussi, puis Pierre tantôt, étant à peu près inconnue et souvent sans archives, sans documents. « Je viens d'un temps que les jeunes gays ne connaissent pas », affirme André dans un autoportrait paru récemment dans Lettres québécoises, comme pour traduire ce difficile partage temporel des expériences entre les générations. Mais cette rupture n'est pas qu'interpersonnelle, puisque l'histoire, la mémoire, les savoirs, les récits LGBTQ connaissent peu d'institutions établies, qu'elles soient privées comme la famille, ou publiques, donc que ce soit des institutions légales, scolaires, artistiques ou médiatiques. pour perpétuer ou même penser des formes d'héritage ou de legs. Le sens économique aussi de ces concepts, parce qu'il y a ça dans l'héritage puis dans le legs, me paraît aussi assez secondaire dans la culture queer qui connaît pas les généalogies matérielles et symboliques que la société coloniale européenne a instaurées en Amérique. Les gays, les lesbiennes, les trans, qui elles-mêmes et eux-mêmes enfantent moins que les hétéros généralement, étant souvent d'ailleurs perçus comme un caillou dans la bonne chaîne de la transmission des possessions coloniales familiales. Plante plus généralement sur tout rapport au passé, les spectres de la grande maladie ou la grande conflagration, selon les expressions d'André, véritable traumatisme intime et historique, qui comme tous les traumas n'appartient pas simplement au passé, mais qui s'accorde, comme le suggérait un numéro de la revue Spirale, à tous les temps. En cherchant les mots « transmission » et « gay » dans Google, je n'ai d'ailleurs trouvé que des articles sur le sida. C'est comme si le sens viral de la transmission contaminait absolument le concept servant à qualifier un passage des valeurs ou des biens entre parents et enfants dans un contexte plus hétéro. Apparaît pour les personnes gays, mais pas seulement, les personnes LGBTQ+, une transmission horizontale et mortifère se produisant souvent à l'insu des individus et par la sexualité. Donc, pour toutes ces raisons, la perspective queer sert fréquemment de socle critique à partir duquel repenser, déconstruire, voire renier les conceptions du temps chronologique et successives, les institutions traditionnelles et les lieux de pouvoir. Cela dit, la culture queer n'a peut-être pas, puis je le pose un peu comme une hypothèse, comme les avant-gardes artistiques, par exemple, les avant-gardes traditionnelles, c'est un peu... mais les avant-gardes... C'est ça, c'est un oxymore, mais les avant-gardes qu'on connaît, mettons, la culture queer a peut-être pas les mêmes moyens de faire table rase du passé, la transmission de ce passé n'étant pas tout à fait établie et demeurant toujours fragile et incomplète. En ce sens, au geste de rupture s'adjoint fréquemment un geste de reprise. C'est que les embûches que connaît la transmission des expériences et de la mémoire LGBTQ a des conséquences concrètes sur la vie, notamment des jeunes, par exemple, on pourrait dire des vieux aussi, ou sur les possibles envisageables, les connaissances, la connaissance du passé étant nécessaire à une émancipation ou à une réflexion politique globale. En l'absence d'institutions sociales et de milieux dits d'origine pouvant nous transmettre une culture, comment apprend-on? Où se forme l'identité de genre si elle n'est pas le résultat d'aucun legs? Quel modèle relationnel existe alors? D'où acquiert-on cette culture à laquelle nous sommes censés appartenir? Peut-on penser une transmission sans filiation et sans héritage? Comment qualifier la relation à un passé qui nous échappe, auquel nous avons difficilement accès, ou pour reprendre une question que pose André, comment continuer quand tout a commencé sans soi? Je lis l'œuvre d'André Roy comme pleinement travaillée par ses questionnements. Il s'agit chez lui, à mon avis, de refuser les modèles et les institutions de la société hétéropatriarcale, et ce, en travaillant à qualifier, à produire et à poétiser, d'autres relations temporelles et d'autres rapports entre les individus. Ou pour le dire avec ces mots, contre la famille, la communauté, la patrie qui cimente le refus de la différence par le lien social, l'écrivain doit affirmer les impossibles rapports sociaux par la singularité de sa parole qui le place dans l'incertitude, la non-maîtrise, hors du pouvoir, hors des sentiers des meurtriers, dit-il en citant Franz Kafka dans « J'ai toujours appris à écrire ». Sa poésie travaille en particulier dans le cycle des vies, donc c'est surtout de ce cycle-là dont je vais m'occuper, qui recoupe le recueil Vie, le recueil Professeur de poésie. Mais moi, j'ai presque envie d'y mettre aussi Comment allons-nous dorénavant écrire, parce que je trouve qu'il fonctionne assez bien dans cette série-là, même s'il n'en fait pas officiellement partie. Donc, sa poésie travaille dans ce cycle-là, un cycle d'ailleurs que l'auteur considère comme, je cite, une sorte de retour sur son œuvre, une manière d'en affiner les propositions poétiques et d'inscrire un biographique dégagé de toute anecdote. Donc, sa poésie travaille à retrouver et à décrire des manières d'apprendre et d'entrer en relation, à renouer des fractures et des écarts entre les temps, les espaces et les corps. Sans leur donner une stabilité, j'aimerais explorer les relations et les formes d'apprentissage qu'on rencontre dans l'œuvre d'André dans l'objectif de nourrir une réflexion plus large sur la transmission queer. Comment apprend-on à écrire? L'œuvre d'André Roy se donne-t-elle des ascendants, des modèles? Dans L'amour est une douleur, donc un autoportrait publié dans Lettres québécoises, André revient sur l'importance qu'a pris la littérature dans son éveil sexuel. Il écrit « J'ai cherché souvent dans les livres les questions et les réponses pour savoir où avancer. » Il poursuit « De voir l'amour des hommes dans les livres m'est toujours venue une émotion qui m'emportait chaque fois dans cette douleur délicieuse. Je voulais être lié à cette écriture de l'amour et je la retrouvais toujours autant éblouie qu'épouvantée lorsque je lisais et plus tard quand j'écrirais. Toujours surpris par elle. » Caressé par elle, enculé par elle. Le rapport affectif à l'écriture est ambivalent, il est amour et douleur, il éblouit et épouvante, mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'il est décrit comme une relation sexuelle. Puis Étienne a un peu commenté ça tout à l'heure aussi, puis Arylis aussi, par laquelle le jeune poète serait caressé et enculé par son art, ou même l'art à venir. Reprenant un imaginaire de la fécondation gay, exemplairement décrit par Hervé Guibert dans « Le mausolée des amants ». Donc c'est une citation qui m'est revenue en tête. Guibert fantasme dans ce texte-là, je cite, « Une écriture qui serait une même force qui se distribuerait à travers les siècles en s'immisçant dans quelques corps favorables qui ne seraient que des relais au projet général de l'écriture, à cette trace monumentale infiniment constituée. Ainsi, moi-même, je pourrais imaginer que ce que j'ai pu faire de cette écriture, tant bien que mal, sera un jour assimilé par un autre corps favorable qui l'apportera plus loin. » Entre parenthèses, je suis par avance amoureux de ce corps-là. Il y aura dans l'écriture un fantasme d'insémination, d'enfantement, mettre 20 ans après sa mort, un siècle après sa mort, un fantasme d'écriture dans un corps étranger. Donc, c'est la fin de la citation de Guibert. Le parcours d'écriture d'André, corps favorable, semble consciemment ou non réalisé, en tout anachronisme d'ailleurs, le fantasme de Guibert, auteur que le poète place dans la liste d'œuvres audacieuses, insolentes, désespérées, intenses, qui lui auront permis de dire « j'ai su qui j'étais ». Donc, c'est toujours dans l'aide québécoise. Comme André l'écrit d'ailleurs dans Le Rayon Rose, il semblerait que l'homosexualité pollinise le texte dans une forme de production qui reprend les termes de la reproduction biologique, qu'elle soit végétale ou humaine d'ailleurs, mais pour les tordre et donner des floraisons inattendues. Dans le même texte, André raconte comment la découverte de la littérature et du désir se font dans la solitude. Cet amour me blessait parce que je ne pouvais le partager, écrit-il. La solitude trouve toutefois dans les mots une étonnante communauté, semblable à la communauté négative dont parle Maurice Blanchot, donc la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté. L'écriture étant comparée dans vie à, je cite, « une plaie qu'on expose devant tout le monde parce qu'on ne veut pas souffrir seul ». Dans la vie parallèle, l'écriture lie à la solitude des autres, à celle des écrivains, à toutes ces solitudes qui l'aident à trouver la sienne. C'est une citation. Cette solitude vient aussi du fait qu'aucune figure d'autorité, qu'elle soit scolaire, amicale ou parentale, par exemple, ne guide la découverte du jeune André qui ne sait quelle boussole, toujours libre, juste, l'aimantait vers les vrais livres qui allaient le sortir de l'ombre, de la tristesse du solitaire. C'est dans le texte dans l'aide québécoise. Les écrivains qui l'inspirent, les écrivaines aussi, on l'a vu, sont plus près des amants que des modèles, dans une sorte de relation plus horizontale que verticale. Je n'énumérerai pas la liste d'auteurs qu'on retrouve dans ces recueils. Dans ses essais aussi, il y a plusieurs auteurs qui sont cités, notamment dans Action Writing. Mais je me contenterai de noter que les influences chez André Roy sont extrêmement hétéroclites et variées. Il donne certes une place importante aux auteurs dits gays, mais pas seulement. Les artistes qui l'inspirent en cinéma et en littérature ont une étonnante diversité d'origine, de genre, de style, d'époque. Il nomme des écrivains plus jeunes aussi, comme Édouard Louis et Mathieu Riboulet, et des contemporains, québécois ou non, comme Madeleine Gagnon, Emma Santos, Hélène Cixous ou Roger Desroches. L'auteur de La vie parallèle écrit les autres écritures, la poésie depuis Villon, disons, donc on voit comment c'est ouvert. Un répertoire qui m'est utile. Je me situe par rapport à elles, c'est-à-dire que je les récupère, je les fais miennes, je peux les citer, les plagier, les caviarder, les transformer pour inventer la mienne écriture. Il n'y a pas d'élection ou de congédiement de modèle chez André Roy, mais une multiplicité d'influences horizontales envers lesquelles l'auteur entretient une admiration parfois fanatique, pensons aux récurrences de Kafka, Rimbaud ou Pasolini, mais étrangement sans déférence. Donc, on le voit avec la possibilité de caviarder, de plagier. Dans La vie parallèle, il écrit un voyou souverain, une bonne définition de l'écrivain. La relation temporelle avec les mots aimés aurait aussi, d'ailleurs, un effet sur les mots adorés. Donc, comme si les livres cités étaient rajeunis en retour. Je cite un passage de professeur de poésie. « Que seront devenus les anciens mots rajeunis par toi? » La phrase est ambivalente parce qu'on pourrait presque se demander si le poète ne s'adresse pas ici aussi à un lecteur ou à une lectrice qui, le lisant lui, raviverait ses premières poésies. Donc on peut à la fois penser à ses propres influences qu'au lectorat, disons. Mais que dire aussi de ce professeur, donc du titre professeur de poésie, figure par excellence de la transmission, qui se transforme parfois en professionnel dans le cycle des vies. Qu'enseigne le professeur? Quelle expertise développe le professionnel? Qui professe et qui est professé dans ses recueils? C'est une évidence, mais on croise rarement le terme de professionnel en poésie. Donc, le terme renvoie à un métier rémunéré nécessitant une certaine reconnaissance des pairs et à l'affiliation à un ordre. Le professionnel de poésie, titre donné à la deuxième partie du recueil, est une expression à demi-ironique, une quasi-antithèse. Si on peut penser que le choix de l'écriture comme métier fait du poète un professionnel, sa maîtrise d'une discipline, la reconnaissance sociale et la rémunération, surtout, que suggère cette expression, maintiennent le doute, pour dire le moins. C'est d'ailleurs qui n'est pas identifié, qui dote le poète de ce titre de professionnel. On peut lire dans Professeur de poésie, « Tu me rappelles que j'écris dans la vie professionnelle. » Quelques années plus tôt, dans Vie, on croisait aussi un professionnel de la mélancolie et un professionnel de la sexualité, autres expressions construites sur le même oxymore. Donc, il y a une approche de la transmission qui sous-tend ces simples titres de partie parce que le poète est posé comme celui qui rejoint les autres, des autres professionnels de domaines qui échappent cependant à toute maîtrise, à toute rationalité et à tout ordre aussi, on pourrait dire. Donc, la mélancolie, la jouissance et le poème. Les émotions, la sexualité et l'art, sciences ardentes, comme il les appelle dans Professeur de poésie, forment des connaissances à partir desquelles le professionnel dessine une nouvelle conception de la transmission, se fondant essentiellement sur des notions abstraites, instables, subjectives et jugées comme secondaires par l'utilitarisme social. Le poète avoue, je cite, s'être toujours appuyé contre le néant pour écrire. Au terme de ses recherches, le poète de Vie, cette fois, découvrait que, je cite, « le sexe fabriquerait de la pensée ». Il y avait une citation presque pareille aussi tantôt que Harry Lee se lut, je pense, ou toi, de Action Writing. Il se remémore dans le même recueil « les grands lits où nous avons pensé ensemble ». On comprend peut-être mieux dès lors pourquoi dans « Professeur de poésie », le vieux poète aura débauché des milliers de poètes. Connaissance et sexualité chez André riment absolument. Et le professeur, donc même le lit devient un espace de pensée. Et le professeur, sans matière et sans école, n'enseigne rien d'autre. Il donne de son corps et habite, je cite, « dans le temps qui n'est pas naturel, professeur du rien ». Mais qui es-tu, André, dans cet enseignement amoureux? Professeur ou étudiant, vieux ou jeune poète? Je cite professeur de poésie. « Le professeur de poésie dira de celui à la belle langue qu'il est blessé quand il écrit ». Le recueil entretient savamment le brouillage, préserve la labilité des positions et des temporalités en s'adressant tantôt au présent, tantôt au passé, tantôt au futur, à un « tu » et à un « il » professeur, pronom qui pourrait simultanément toujours camoufler un « je ». Si le poète semble faire retour sur sa propre formation dans ce cycle, celui dont les livres auront bientôt plus de 20 ans, comme il l'écrit, est aussi à la fois présenté comme, je cite, « un spécialiste du « je », l'ancien jeune homme qui mangeait son temps après un sommeil réparateur ». Fin de la citation. L'écriture témoigne d'un désir de partage, presque de communion. Le sujet souhaite, sans paternalisme et sans patronage, participer à la formation de l'être aimé. Il écrit « Je voudrais être la personne qui ouvre tes rêves, te donne la comète éclairée à minuit et te montre les dragons étendus contre l'azur. » Il se demande aussi, en clôture du même poème, si l'aimé reconnaîtra en retour son don de beauté. Mais si les étoiles te réveillaient en tant que miracle, si l'univers se cachait dans les petits trous de la nuit, écrirais-tu pour ma personne bien-aimée? Dans un autre texte, le poète abandonne la position d'écrivain pour devenir l'assistant de celui qui écrit, activité décrite comme une lutte entre ancien et nouveau. Je cite « Je serai le conseiller de celui qui écrit chaque jour, un poème qui ne ressemble à aucun autre poème, à cause des mots anciens, luttant contre les mots nouveaux. » Le poète rappelle à son interlocuteur dans Vie qu'il fait aussi son travail pour les autres, rejoignant un groupe au nous dont les contours restent ouverts et abstraits. Je cite « Pour toi, je m'occupe des sentiments des autres, de leurs raisons, des quelques centimètres d'une réalité qui nous est commune et qu'il nous reste. » Dans « Professeur de poésie », cette fois, le poète écrit comme un commandement ou comme une prophétie « Tu donneras, André, de la poésie à ceux qui n'en ont pas. » On le voit, la poésie est comme le sexe, un geste de partage, un don de soi dans le cycle des vies. Les relations n'y sont pas organisées strictement d'après un rapport d'antécédence, de continuité temporelle que supposerait la filiation linéaire traditionnelle, et cela affecte aussi évidemment la temporalité de l'écriture. Nous sommes, pour reprendre un vers cité tout à l'heure, dans le temps qui n'est pas naturel. Cette temporalité entrelacée nourrit la démarche même du cycle des vies au sujet duquel André écrit en commentant le caractère rétrospectif des recueils qui le composent que, c'est dans « J'ai toujours appris à écrire », le futur du texte devient le passé du texte, le nouveau contient l'ancien. Dans ce livre dont hériteront les fantômes, comme il l'appelle dans « Professeur de poésie », la méditation sur le temps est néanmoins inquiète. Le poète écrit « Mes poèmes ressemblent à une personne entière qui se prépare à tomber, à se relever, à être abandonnée. Les amours, les sensations et les mots sont comme les amants, friables, éphémères. Je cite « Ces images que j'expose passeront très vite du présent au passé, dans ma chambre devenue le tombeau de l'ardent. » La question qui travaille tout le cycle est au fond celle du dernier recueil d'André, sorte d'écho angoissé et interrogatif à l'affirmation « J'ai toujours appris à écrire », c'est-à-dire « Comment allons-nous dorénavant écrire ?» La question de la poursuite des choses, de la durée et de la disparition, autant dans la vie que dans l'écriture, sont posées. Des vers imaginent d'ailleurs une rencontre avec des lecteurs et des lectrices dans les deux recueils, même si le poète affirme dans vie « Je peux durer, malgré mon cœur préoccupé par la vie provisoire, par le temps de l'ancienne gaieté prête à me quitter », il est aussi constamment hanté par la disparition des êtres aimés, selon le titre d'une partie du dernier recueil. Dans le recueil « Vie » comme dans « Professeur de poésie », je cite « Plusieurs corps apparaissent, couverts de trous et de taches, et le poète ne cesse de s'étonner lui-même d'être en vie. Les défunts me sont devenus aussi familiers que les vivants, et je serai le vivant de leur nom, leur coïncidence de déshérité. » C'est dans « Vie ». Il écrit comme Jean Genet pour « Le grand peuple des morts », c'est dans « Comment allons-nous dorénavant écrire ». La grande conflagration ou la grande maladie, comme André les appelle, le place dans une position, voulue ou non, de gardien de la mémoire. Le poète devient malgré lui « celui en chagrin de vous », selon une expression de vie. Comme s'il fallait, je cite toujours, « toujours qu'il écrive, qu'il soit le professionnel de la fin des choses, le bon poète devra conserver la chaleur de chaque corps poussé brusquement hors du présent. » C'est dans « Professeur de poésie ». Dans « Vie », un bout de poème décrit bellement cette sensation de n'être jamais qu'une, de n'écrire jamais qu'une même triste saison. Je cite « La réalité abandonnée, l'été dissous, les âmes contaminées après les nuits qui avaient goûté aux événements du corps, je décris cela uniquement depuis 20 ans. » Les passages les plus bouleversants jaillissent de vers souvent simples qui s'adressent aux disparus. Toujours dans « Vie », « Vous direz que vous venez chez moi lorsque vous mourrez, car j'écris dorénavant pour les disparus. » La transmission dans le cycle vie d'André Roy est, pour conclure, différente de celle de l'héritier contemporain analysé par Martine Emmanuel, Laurent Demance, Karine Seller ou même Dominique Viard. Pour cette raison, je me demande si on peut parler encore d'héritage, de filiation, de legs, notion qui me semble très endettée à un imaginaire et à des structures hétérosexuelles. Il n'y a pas de volonté généalogique, ni ascendante, ni descendante dans son œuvre. Pas de discours de fondation ni d'institution qui assure la transmission des récits et des expériences, et les figures de la continuité, de la suite du monde sont rares, fragiles, elles s'inscrivent dans une expérience du temps inquiète, menacée par l'oubli. Le professeur de poésie, mais n'est-ce pas toujours lui, André, ce professeur de poésie, qui apprend toujours à écrire aux autres comme à lui-même, sont sans école, et le poète apprend de ses amants et de livres qui forment une bibliothèque vaste et improbable. Le texte laisse apparaître des modes d'apprentissage relationnels horizontaux, le professeur et l'amant se confondent. Si le poète chez Roy rejette ou plutôt ignore les données de la transmission traditionnelle hétérosexuelle, il ne fait pourtant pas table rase du passé. La grande maladie le dote d'un devoir de mémoire impossible et il se demande comment renouer avec les disparus qui frappent par leur étrange rémanence. Qu'est-ce que nous laisse en retour l'œuvre d'André? Son grand tombeau pour les morts les ravive et les éloigne. Ils se confondent dans une masse de disparus à laquelle la poésie elle-même appartient peut-être. Je cite son dernier recueil, « J'exige un art dont le devoir est de disparaître », c'est le dernier vers. Les textes d'André n'enseignent rien. Ils ne prévoient pas de division précise des... la poésie, disons, parce qu'on a vu que c'était différent avec les essais. N'enseignent rien, ne prévoient pas de division précise des héritages et ne signent aucun testament. Ils écrivent, je cite le recueil « Professeur de poésie », ce sentiment de n'être rien parmi les égarés d'une histoire construite hors de soi. Ces poèmes poursuivent toutefois le projet général de l'écriture dont parlait Guibert. Ils rejoignent peut-être la communauté de celles et ceux qui n'ont pas de communauté, en essaimant, se dispersant dans l'air, en l'attente, peut-être, de quelques corps favorables.